France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Mieux vaut être seul que mal accompagné. Comment écrire l'histoire du célibat? Comment savoir s'il est forcé ou s'il est choisi? Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous allons assister à l'apparition d'un étrange personnage, le célibataire.
On peut partir d'un fait premier. Le danger que dans n'importe quel groupe social, le célibataire représente.
Pourquoi donc le maltraitez-vous, ma mère? Est-ce que vous ne voulez plus qu'il m'aime? Ou qu'il m'épouse?
Non, ma fille.
À mes yeux, c'est une preuve très touchante de tendresse fraternelle.
Et le mariage, tel qu'il a été jusqu'ici, n'est plus aussi qu'une pure servitude que nous abolissons.
Même si le cas de notre vieux célibataire ne laisse pas indifférents les hommes de l'époque, il est loin de constituer un brûlot politique.
Abolir le mariage? Et que mettra-t-on à la place?
Le cours de l'histoire.
Cela est bien court! Et que mettra-t-on à la place?
Rien.
Rien. Faut-il abolir le mariage? La question est quand même osée. Bonjour, Juliette Emioud.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire conservatrice des bibliothèques et vous êtes l'autrice d'une thèse consacrée au célibat. Célibat dans la noblesse française d'Ancien Régime. On va avoir besoin de clarifier encore une fois ce vocabulaire parce qu'il est compliqué avec vous, Mathias Valverde. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes doctorant. Vous travaillez aussi sur cette notion-là du célibat avec quelque chose de complexe. C'est quoi le célibat, en fait? Est-ce que c'est simplement ne pas être marié? Est-ce que c'est vivre seul? Alors, comment vous, vous le définissez, Juliette Emioud?
Alors, moi, j'ai choisi de le définir à partir du statut, enfin, en opposition au statut matrimonial. Donc, les personnes qui ne sont pas mariées sont célibataires. Et les personnes qui ne se marient jamais de toute leur vie sont célibataires. Ce qui inclut, dans mon travail en tout cas, les religieux, les religieuses, mais aussi les célibataires laïcs dans le siècle, comme on dit au XVIIe siècle.
Les veufs, les veuves?
Alors non, justement, parce que pour moi, c'est des gens qui ont été mariés. Donc qui n'ont pas le même statut qu'un célibataire, pas les mêmes ressources financières, qui parfois ont des enfants, voilà, donc c'est une autre vie.
Et vous incluez quand même les gens qui ont été célibataires et qui se marient ensuite, tardivement ou pas? La phase de célibat avant le mariage, si elle est un peu longue.
Oui, voilà, alors ça c'est la grande question. Effectivement, moi j'ai rencontré surtout des hommes qui se marient très tardivement. Le doyen a 73 ans, par exemple, dans ma thèse. Il a été abbé toute sa vie et il se marie à 73 ans parce que dans sa famille, il n'y a plus de descendants. Et donc, il est obligé un peu de reprendre le flambeau et de sortir... De sortir du clergé. Donc il y a effectivement des marges un peu troubles sur la définition du célibat.
Et oui, mais c'est en cela que le sujet est passionnant, parce qu'il va falloir explorer aussi ces marges. Mathias Valverde, vous le définissez comment, le célibat?
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec la définition d'un statut matrimonial, et effectivement... Pour les contemporains de l'époque, c'est ce que ça veut dire, être célibataire. Mais en tant qu'historien et en travaillant sur ces savants, je me pose aussi la question de cette expérience du célibat par ces savants, et notamment le temps qu'il y a avant le mariage, les questions qui se posent avant le mariage, la question de la séduction, et notamment pour les savants, le temps que prend l'établissement d'une carrière, d'une réputation qui prend du temps, et donc un mariage qui est de plus en plus tardif pour les savants célibataires que j'étudie.
Voilà, déjà on casse une idée reçue des sociétés où tout le monde est marié et doit être marié, si ce n'est les religieux et les religieuses. Là, on est bien d'accord sur la période que vous étudiez. C'est quelle période, vous, Juliette Emioud?
Alors moi, c'est vraiment le XVIIe siècle. Alors, j'ai fait un XVIIe siècle un petit peu élargi, justement, pour pouvoir mener une étude démographique. Donc, on va dire, je suis des familles depuis 1550 jusqu'à 1750. Et ce que j'ai observé, c'est vraiment une espèce de creux de la vague dans ce long XVIIe siècle où... les individus nobles se marient de moins en moins.
Voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel de se dire « Ah voilà, on a trouvé quelqu'un qui n'est pas marié, donc qui est célibataire ». Il y en a pas mal.
Il y en a pas mal, oui. Dans mon étude, à peu près une femme sur deux ne se marie pas. C'est un petit peu moins chez les hommes, mais oui, c'est quand même très conséquent.
Vous, quand vous étudiez les savants, Mathias Valverde, vous en avez beaucoup?
C'est un peu l'inverse, dans le sens où le célibat des savants est très... proclamé dans les écrits et dans les textes de l'époque, mais à partir de 1750, au moment où je commence mes travaux plus tôt, c'est le mariage qui remonte chez les savants, et donc cette idée que la conjugalité, la famille est importante pour se présenter en tant que savant citoyen. Moi, je travaille plutôt sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle.
Une fois qu'on a dit tout ça, on a dit beaucoup, mais on n'a pas dit grand-chose, parce que maintenant, il va falloir explorer la manière dont sont perçues ces personnes qui ne vivent pas. Alors, ça va être compliqué à savoir hein, si c'est choisi, si c'est forcé, parce que là aussi, on touche à quelque chose d'intime, et c'est toujours la question des sources pour l'historienne, pour l'historien. Il y a une préoccupation sur cette idée-là de savoir pourquoi la personne est célibataire.
Alors, la question du choix, c'est toujours très compliqué. Effectivement, vous parliez des sources. Certains diraient que la notion de choix est même anachronique hein, pour les sociétés anciennes, parce qu'on est dans des sociétés de lignage où, en fait, ce qui compte, c'est le bien-être de la famille, c'est la perpétuation du nom. Donc, est-ce que vraiment il y a des choix individuels ? C'est un débat sans fin. Moi, j'ai pas choisi d'entrer tellement dans ce débat. J'ai plutôt regardé à l'échelle des familles, et des fratries et des générations. Voilà.
Et pour les savants, on voit qu'il y a un processus de carrière ici qui rentre en compte.
Oui, tout à fait. Et effectivement, ce choix se pose à un moment où les carrières ne sont pas aussi clairement établies. Il n'y a pas de professionnels de sciences au XVIIIe siècle, ou en tout cas moins qu'il n'en aura au XIXe. Et donc, dans ce moment-là, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut continuer à faire des recherches, des études sur la nature, ou bien créer un peu plus d'une fortune en faisant autre chose que la science? Et ça pose une question pour nombreux savants.
Ouais, et puis c'est toute la question de la famille, hein, de la lignée. Souvent, ce qui a intéressé, c'est la lignée, la descendance. Avec ces célibataires, parfois, il n'y a pas de descendance. On pourrait dire que c'est un objet d'étude qui a longtemps laissé les gens un peu indifférents, parce que ce qu'on remontait, c'est l'arbre et puis ces petites branches-là qui n'ont rien donné, alors que c'est pas vrai. C'est toute la production culturelle qu'on va retrouver ici. Et puis, ça fait complètement partie de la lignée. Mais malgré tout, ça n'a pas été étudié pendant longtemps.
Oui, exactement. Pendant longtemps, on a fait l'histoire de l'époque moderne à partir de, en tout cas pour la noblesse, de généalogie imprimée. Et tout l'objet des généalogies imprimées de l'époque, c'est donc de savoir à qui reviendra le titre, les terres, qui perpétuera le nom. Et donc, on s'intéresse principalement aux individus mariés, principalement aux aînés. Aux hommes, aux garçons. Donc, en fait, sont laissés de côté tout un tas de cadets, cadettes, d'hommes et femmes entrés en religion, et puis parfois de célibataires laïcs qu'on avait très peu étudiés jusqu'à mon travail.
Voilà, on va en croiser pas mal aujourd'hui de ces célibataires laïcs, principalement avec tout un champ qui s'ouvre à nous. On le dit, hein, cet objet est porté ici devant les préoccupations du moment, parce qu'on parle du célibat, mais ce n'est pas nouveau. Il n'est qu'à citer les travaux d'Arlette Farge.
C'était d'autant plus paradoxal que la femme seule ne soit pas devenue objet de l'histoire que des sources il y en avait. Il y a des sources sur les religieuses, beaucoup, dont une partie a déjà été exploitée, des sources sur les servantes et les domestiques, dont on le sait qu'elles sont pour la plupart célibataires, femmes seules, des sources aussi sur les veuves. Mais on n'avait pas regroupé toutes ces sources autour de ce problème de la solitude féminine. Et je crois que c'est peut-être une habitude de l'histoire de suivre en fait, les configurations officielles du savoir, et dans la mesure où la femme seule dans notre société n'était pas prise en compte, l'histoire elle-même ne suivait pas.
La solitude est qualitativement une réalité difficile à cerner. Multiforme, elle est à la fois inévitable, à un moment quelconque c'est le lot commun des femmes, et souvent transitoire, un passage obligé qui peut se muer en état permanent. Un temps inéluctable, dont la durée, souvent fort longue, et l'emplacement au cours de la vie, compose des itinéraires singuliers, fruits de hasard, de nécessité et de choix, dans une proportion qui échappe à la mesure. D'où l'intérêt des études de cas où se profile la variété des scénarios possibles et les récits de vie où se devine le secret des motivations. Chaque solitude a son histoire.
Madame ou Mademoiselle, itinéraire de la solitude féminine, 18e, 20e siècle. C'est un ouvrage qui est apparu en 1984 avec la voix d'Arlette Farge qu'on a entendue en 1984 aussi, parce que Arlette Farge a rassemblé ses textes et fait cette étude. Juliette Aimé-Houde, ici, c'est formidable hein, parce que c'est Arlette Farge, elle évoque la question des sources, elle évoque Le problème qui est au cœur de toute notre réflexion, ce sont des destins individuels aussi. Donc c'est très dur de faire une étude qui généralise l'ensemble, destin individuel, mais malgré tout, il faut cumuler ces destins individuels pour saisir des grandes trajectoires, des tendances générales.
Oui, mais c'est ça, en fait, elle dit tout dans cet extrait. Il faut vraiment passer par l'étude de cas pour découvrir des célibataires, parce que les sources que, par exemple, la démographie historique a utilisées, qui sont principalement des registres paroissiaux, ou des données quantitatives comme ça, très, 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 très larges, ne permettent pas d'accéder à ces trajectoires individuelles et ne permettent pas de connaître tous les détails d'une vie. Donc vraiment, l'étude de cas est nécessaire, l'étude d'un groupe restreint. Moi, dans ma thèse, j'ai travaillé sur 4 familles, donc on peut se dire que c'est peu, mais en fait, c'est, selon moi, la seule méthodologie possible pour accéder aux célibataires.
Comment vous avez travaillé? Comment ont été choisies ces 4 familles?
Alors là, c'est vraiment... Je dois rendre hommage à ma directrice de thèse, Fanny Cosandé, qui on s'est d'abord rencontrée quand j'étais en master, et elle m'a demandé de travailler sur la famille des Courtenay, qui est une famille assez originale, disons, dans ce début du XVIIe siècle. C'est des gens qui revendiquent le titre de prince du sang, prince du sang royal de France, mais qui en fait sont déboutés de toutes leurs demandes. Donc bref, j'avais commencé par les Courtenay, et puis à travers des alliances matrimoniales, j'ai rencontré les 3 autres familles de mon corpus, un petit peu voilà, par le hasard des découvertes et par l'intérêt que pouvaient représenter certains individus dans ces familles.
Ah, il y a du beau monde aussi, hein.
Ah oui, il y a du beau monde. On est chez les Béthune, avec les auditeurs auditrices connaîtront sûrement le ministre Sully, qui appartient à cette famille Béthune. Chez les Harlay, on a aussi de très grands personnages, comme un évêque de Paris, François de Harlay, que certains connaîtront peut-être. Et puis la 4e famille est plus petite noblesse. Il s'agit des Lamettes. Et voilà, donc c'est un panel un petit peu large et intéressant.
Oui, parce que Sully, le petit pote du roi Henri IV, bien sûr. Lui, pas célibataire. C'est pas lui qui est au cœur de votre étude. Oui. C'est sa petite fille. Qui est-elle?
Alors oui, sa petite fille, ça a été l'une des plus belles découvertes de mon travail de thèse. Donc elle s'appelle Louise de Béthune, demoiselle de Montmort. C'est la titulature qu'elle prend dans la dernière partie de sa vie. Et donc c'est vraiment un personnage deux femmes célibataires du XVIIe siècle. Elle naît en 1617, meurt en 1671, donc elle traverse comme ça toute une partie du siècle. Et elle se nomme dans les actes qu'elle écrit chez notaire, fille majeure, usante et jouissante de ses biens et droits. Et donc cette titulature de fille majeure, ça a été, là encore, une découverte de ma thèse. Et donc c'est une façon pour les femmes de plus de 25 ans d'indiquer qu'elles sont sans la tutelle d'aucun homme, ni père, ni mari, ni frère, et qu'elles peuvent user de leurs biens.
Oui, parce que le mot célibataire ne va pas apparaître au XVIIe siècle.
Non,
pas,
non.
Dans un registre, on ne va pas désigner une personne comme célibataire.
Non, moi en tout cas, j'ai trouvé aucune occurrence de ce terme de célibataire au XVIIe siècle. Dans les dictionnaires, il apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et là, ça fait vraiment écho à ce que disait Mathias tout à l'heure. C'est une vision très péjorative du célibataire en opposition à la famille, la politique familialiste, la revalorisation du mariage.
Mathias Valverde, vous célibataire, vous le croisez parce qu'on est sur une période un tout petit peu postérieure, un milieu 18e siècle, et puis ça s'étend un peu au 19e siècle.
Oui, effectivement, dans mes sources qui sont essentiellement, alors je suis un peu les vies masculines dans les académies des sciences de l'époque, donc se développe à partir de l'académie des sciences parisienne tout un tas d'académies dans les différentes provinces que j'essaye d'étudier, et dans ce cadre-là, beaucoup de savants, donc ceux qui pratiquent les sciences, qu'on pourrait appeler scientifiques aujourd'hui, mais le terme n'existe pas avant le 19e siècle, rendent notamment des éloges à la fin de la vie. Dans les académies, il y a une volonté de rendre hommage aux défunts. Et dans ces éloges, on trouve beaucoup d'exemples d'utilisation du terme de célibataire, puisqu'on dit à la fin, souvent, de ces éloges, on a un petit paragraphe sur la vie que l'homme a menée, et de plus en plus biographique quand on avance dans le XVIIIe siècle. Et là, on parle de « il a mené une vie célibataire », Il s'est marié à la philosophie, il n'a jamais été marié. Par différents moyens, on montre le statut matrimonial de ces savants.
Oui, et puis on utilise célibataire comme adjectif, j'entends. Une vie célibataire et un célibataire. C'est là où on ne l'utilise pas, alors donc on dit quoi ces expressions qui peuvent apparaître pour désigner une personne qui n'est pas mariée.
Eh bien alors, hormis fille majeure, pour désigner les hommes, il n'y a pas vraiment de vocabulaire. Donc il faut faire le travail d'historien, d'historienne et voir si ces gens se sont mariés ou non. Et l'autre source dont je parlais tout à l'heure, les généalogies imprimées, utilisent quand même des termes pour désigner le célibat, mais ça va être plutôt par la négative. Donc ça va être sans alliance, sans oir, pour dire héritier, sans enfant, sans descendance.
H-O-I-R, oui. Oir. Non, mais si on veut le mettre au Scrabble, c'est toujours voilà. Pratique. Alors, pour désigner les célibataires, je vais vous faire une proposition. Elle vient pas de moi, elle vient de Michel de Certeau, un théologien, un philosophe, etc. Appelons-les des automobiles.
Fondamentalement, je crois que la célibataire naît d'une valorisation de la mobilité. On pourrait dire que le célibataire est automobile. C'est la femme ou l'homme automobile qui circule dans l'autonomie par rapport aux contrats sociaux, conjugaux, matrimoniaux. Et ce n'est pas pour rien, en effet, que le célibataire dans un village ou dans une société bien établie se présente comme la menace.
La menace célibataire, Michel de Certeau, 1977, avec ici cette idée d'automobile. Donc l'idée peut-être à retenir, l'autonomie, c'est important, parce que définir le célibataire en opposition à la personne mariée, ça c'est une chose. Mais dire que c'est une personne autonome dans une société où ben, normalement personne n'est vraiment autonome, ça c'est peut-être la particularité, sachant que l'on n'est jamais vraiment autonome dans une société. Je ne sais pas comment vivent vos célibataires, notamment Louise de Béthune, Juliette et Méhoud.
Alors là, encore une fois, Louise de Béthune, c'est un peu... c'est peut-être une anomalie quand même, parce que elle vit seule, elle est complètement autonome. Elle est à la tête d'un patrimoine extrêmement conséquent, de plus de 300 000 livres. Elle s'installe dans un hôtel particulier à Paris. Elle a une large domesticité. Voilà, donc, mais c'est vraiment... c'est pas le cas le plus fréquent que j'ai pu rencontrer, moi. En général, les célibataires, hommes comme femmes d'ailleurs, laïcs, vivent plutôt avec soit leur mère qui est devenue veuve, soit avec un frère aîné qui s'est marié et qui a fait famille. Et donc, on peut avoir le personnage de l'oncle ou de la tante à domicile. Moins d'autonomie et plus de vie en famille. Oui.
Mais c'est surtout ça. Quant à vous, Mathias Valverde, ils sont comment vos célibataires? Alors, j'utilise le mot parce qu'on va l'utiliser à un moment ou à un autre. Ce sont des vieux garçons, on pourrait le dire comme ça.
Oui, en fait, ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a une longue tradition du célibat chez les savants et les érudits depuis cette époque médiévale dans laquelle les croisements entre position cléricale et savoir sont un peu rapprochés. Mais dans l'époque moderne, où la pratique des sciences évolue beaucoup, au XVIe et XVIIe siècle, il y a toujours cette tradition qui est remise au goût du jour par certains savants et qui revendique une certaine solitude nécessaire selon eux. Francis Bacon, le philosophe anglais, parle du fait qu'il faut être seul pour pouvoir arriver au génie et il ne faut pas s'encombrer d'une famille, notamment d'enfants. Et donc il y a tout ce discours qui revient, même si Francis Bacon est marié, et que d'autres en fait qui parlent du célibat sont aussi des hommes mariés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce discours qui reste jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où en fait il n'y a pas d'exclusion du célibataire des cercles savants. Mais la pression sociale, les questions dans la société se posent de plus en plus pour les savants en tant qu'individus dans ce monde, puisque il y a effectivement des ecclésiastiques chez les savants, mais une bonne partie reste des laïcs.
Une petite tranche de bacon.
Celui qui a une femme et des enfants a donné des étages à la fortune. Il n'est pas douteux que les plus beaux ouvrages et les plus utiles établissements n'aient été faits par des célibataires ou par des hommes qui, n'ayant point d'enfants, avaient, pour ainsi dire, épouser le bien public auquel ils avaient voué toutes leurs affections. Le motif qui porte le plus ordinairement au célibat, c'est l'amour de l'indépendance. C'est ce qu'on observe surtout dans certains individus amoureux d'eux-mêmes, hypochondriaques, susceptibles et tellement sensibles à la plus légère contrainte, qu'ils seraient tentés de regarder leurs jarretières comme des chaînes. C'est parmi les célibataires qu'on trouve ordinairement les meilleurs amis, les meilleurs maîtres et les meilleurs domestiques, mais non pas les meilleurs sujets, car ils se déplacent trop aisément, et c'est dans cette même classe qu'on voit le plus de fugitifs.
France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Francis Bacon, dans ses essais de morale et de politique, en 1625, ici, c'est la période, Juliette Éméoud, qui vous intéresse. C'est fascinant de voir cette réflexion, de la part d'un homme marié, peut-être que ça se passait pas si bien, non mais pour dire que le mariage, c'est pas formidable, et qu'il y a cette recherche d'autonomie. Comment on peut expliquer autant de personnes célibataires sur la période que vous étudiez, ce début du XVIIe siècle? C'est quoi? Alors, là aussi, on ne peut pas généraliser, on l'a bien dit, on le redira sans cesse, ce sont des cas particuliers, on ne va pas comparer quelqu'un comme Louise de Béthune, qui est riche, qui a des domestiques, qui a un château et même plusieurs, et puis quelqu'un qui est célibataire et qui vit chez maman. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est un désir d'autonomie, dans certains cas, Louise de Béthune quand même. J'imagine qu'elle était courtisée.
Alors, certainement. Oui, il y a effectivement. Enfin, cette question de l'autonomie, encore une fois, je préfère pas m'aventurer.
Oui. Dans... Non, mais c'est très difficile à dire parce que ça touche à l'intime. Tant voilà. qu'il n'y a pas la trace et l'explication, on ne peut pas savoir. Ce qu'on peut savoir en revanche, c'est qu'elle dispose de toute l'autonomie sur sa vie privée, sur sa fortune. Mmh. Et ça montre comment ces sociétés rendaient possible ces automobiles, et je reprends l'expression de Michel de Certeau, au sein d'une société fortement patriarcale.
Oui, absolument. Et en même temps, ce qui est très intéressant à observer, c'est les choix que font les célibataires, hommes comme femmes, dans la disposition de leurs biens. Parce qu'on pourrait s'imaginer Louise de Béthune ou quelqu'un d'autre faire des donations à des amis, comme parlait Francis Bacon, ou à des couvents, ou etc. Et finalement, en fait, les célibataires, ce que moi j'ai observé, c'est que leur patrimoine revient quasi systématiquement à leur famille, à leur frère aîné, aux enfants de ce frère aîné, et la plupart du temps, aux fils aînés de ce frère aîné. Donc en fait, les célibataires reconduisent, eux et elles aussi, les logiques patriarcales à l'œuvre dans leur temps.
Oui, parce que c'est ça, les neveux et les nièces vont hériter de cette fortune. Et tout à l'heure, quand on disait que dans l'arbre généalogique, ces célibataires ne sont pas des rameaux qui ne donnent rien, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le concevoir. Ils sont complètement intégrés, ne serait-ce que par la transmission de la fortune, ça c'est une chose. Et puis il y a les biens aussi, il y a les propriétés et les collections, etc. Donc ils participent à cette transmission.
Oui, complètement. Et c'est le cas aussi chez les religieux, où on voit vraiment des dynasties, des transmissions d'évêchés, des transmissions d'abbayes pour certaines femmes, des femmes abbesses, et du côté du patrimoine, oui, du patrimoine foncier. Il y a vraiment des lignes de transmission qu'on peut clairement établir en observant leur testament.
Après, nous avons la chance, de temps en temps, et c'est rare, d'avoir témoignage de la personne célibataire qui décide d'expliquer sa relation à son célibat. Mathias Valverde, vous avez travaillé sur qui, vous, principalement?
Alors, je travaille sur de nombreux savants, mais effectivement, Alexandre Brongniart a laissé des textes à la première personne qui sont assez intéressants de suivre. J'ai travaillé aussi sur des correspondances dans lesquelles certains célibataires, et je rebondis sur ce que disait Juliette, sur cette question de la transmission. Il y a une lettre à Séguier, qui est une sorte d'érudit dans le sud de la France, qui reçoit une lettre d'un ami antiquaire qui lui écrit qu'il a laissé tomber son genre de vie, en parlant de son célibat, pour se marier, et qu'il attend notamment la fortune d'un oncle célibataire de cette femme avec qui il se marie, pour faire grandir sa fortune. Et il dit qu'à cause de ce mariage, et parce qu'il doit gérer les affaires maintenant de la famille, il abandonne son genre de vie aussi savant, et qu'il se consacre plutôt à ce mariage. Et donc il y a cette question d'un genre de vie qui reste quand même, qui devient au XVIIIe siècle une question. Et Alexandre Brongniart, ce minéralogiste qui devient directeur de la manufacture de Sèvres, puis professeur de minéralogie au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui vit sa jeunesse avant la Révolution, il a 20 ans au moment de la Révolution, écrit dans de nombreux journaux personnels qui sont reliés dans les archives, mais qui à l'époque étaient des petits carnets qu'il tenait d'abord en voyage et puis ensuite à Paris. Et il commence à s'interroger dans ses carnets D'abord, il fait des observations savantes. C'était un linéaire, donc il se demande, il faut écrire tous les jours sur ce qui l'entoure. Mais petit à petit, ce qui l'entoure, c'est aussi lui-même. Et donc, il se pose des questions dans ce journal sur sa vie et sur le mariage. En fait, la question plutôt, lui, c'est le recours au mariage ou non, puisqu'il pense que se marier, comme il n'a pas beaucoup de fortune, il est l'enfant de l'architecte Théodore Brongniart, du palais Brongniart à Paris.
Bourse.
Exactement. Mais ils ont perdu un peu leur fortune. Il n'y a pas vraiment de fortune dans la famille. Et donc, il doit faire prendre un état. Et donc, soit ouvrir une pharmacie. Il se demande, est-ce que j'ouvre une pharmacie? Mais alors, j'abandonnerai mes enquêtes sur la nature, l'entomologie. Et donc, il se pose beaucoup de questions. Et dans ce texte, il écrit notamment qu'il a des doléances contre le célibat. Mais qu'il a aussi beaucoup d'a priori vis-à-vis du mariage, qui serait pour lui un problème auquel il ne veut pas se résoudre forcément. Alors il écrit à un certain âge, hein, à 26-27 ans, à un moment où les hommes ne sont pas encore mariés, la moyenne c'est 28-29 ans à ce moment-là, donc il n'est pas non plus en retard sur l'âge du mariage, mais ça le questionne beaucoup, notamment parce que c'est un homme de la fin du 18e siècle qui a une idée du bonheur personnel et de l'individualisme qui change par rapport à ce que Juliette a étudié sur le XVIIe siècle. Il lit Benjamin Constant ou d'autres et il se demande s'il n'y a pas une individualité particulière à avoir. Et son bonheur personnel, il le lie notamment à l'amour et à l'amour qu'il pourrait recevoir de femmes. Dans une tradition un peu révolutionnaire, avec une idée, il parle de sa philosophie, même s'il n'explique pas exactement ce que c'est, il souhaiterait avoir des relations plutôt libres avec des femmes de l'époque. Alors c'est aussi le privilège masculin, hein, de la sexualité qui lui revient et qu'il revendique d'une certaine manière, qui lui permet de se poser ce genre de questions. Mais oui, ces textes-là, à la première personne, sont assez intéressants pour rentrer dans l'expérience du célibataire. Il y a aussi des textes féminins, mais qui sont plutôt des textes de réflexion. Il y a Gabrielle Suchon, au tout début du XVIIIe siècle, qui écrit aussi, qui revendique une certaine autonomie de ce célibat féminin, Thiroux d'Arconville aussi, mais qui sont plus durs à regarder du point de vue féminin de ces textes à la première personne de réflexion, et qu'on a pour quelques-uns de ces hommes célibataires.
Gabrielle Suchon.
Toute personne de bon sens ne saurait soutenir que les charges de conscience ne soient incomparablement plus grandes, plus étroites et plus nombreuses dans le mariage et dans la vie monastique que dans le célibat volontaire, que je nomme souvent vie neutre et dégagée. Chacun sait que le mariage n'est pas seulement traversé par la perte des biens, par les indispositions de la santé, par les enfants rebelles, par les domestiques insolents et par mille autres événements fâcheux, mais encore par les grandes obligations que l'on a d'avoir une soumission parfaite aux volontés d'un mari, par les soins de l'éducation des enfants, de la correction des domestiques, du maniement des biens temporels et de la conduite d'une famille. Toutes ces choses bien considérées concluons en faveur de la nécessité d'une vie libre, tant pour conserver l'honneur et la réputation des personnes que pour tranquilliser leur conscience. Ainsi, on ne devrait jamais détourner les personnes qui veulent rester dans l'état de neutraliste, puisque non seulement c'est un bonheur pour elles, mais encore un avantage pour leur famille. C'est une chose étrange que l'amour, qui fait la douceur des personnes qui doivent passer leur vie ensemble, est très souvent la cause de leur peine. Le soupçon, la méfiance, la jalousie et toutes leurs fâcheuses suites donnent des ennuis inconcevables. Les personnes qui passent leur vie dans le célibat sont exemptes de toutes ces peines. Elles ne sont pas inquiétées par le désir de plaire et par la crainte d'être maltraitées. La dépendance ne les rend point captives, ni la jalousie suspecte.
Un manifeste pour le célibat. Nous étions en 1700 avec Gabrielle Suchon, Gabrielle au féminin de Zelle, du célibat volontaire ou la vie sans engagement. Juliette Emeyoud, c'est intéressant d'entendre cela parce que, évidemment, selon où on se place dans la société, il est possible de porter certains messages par rapport à d'autres. Mais si on regarde dans vos études, est-ce qu'il est possible de voir dans ces généalogies qui est célibataire? Est-ce que les aînés sont célibataires souvent? Est-ce que la charge n'est pas trop forte et ça empêche complètement l'idée de choisir une vie autonome?
Moi, j'ai rencontré très très peu d'aînés qui sont célibataires. Et quand ils le sont, Il y a un cas chez les Harley dont je parlais tout à l'heure, une branche cadette des Harley. C'est pour accéder à de hautes charges ecclésiastiques. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est quand même au XVIIe siècle, dans une période de réforme protestante, réforme catholique, et aussi dans une période où la monarchie renforce les charges ecclésiastiques, avec des revenus parfois extrêmement conséquents à la tête de certains évêchés, de certaines abbayes. Et donc parfois, la vie religieuse peut représenter beaucoup plus d'attrait que le mariage pour certains hommes. Mais dans l'immense majorité des cas, les aînés hommes se marient.
Est-ce qu'il y a une stratégie de laisser l'aîné se marier et puis de faire en sorte que les cadets restent célibataires ou aillent au couvent dans une volonté en fait d'un système d'entonnoir de fortune, c'est-à-dire de concentrer la fortune sur l'aîné?
Ah oui, moi c'est complètement comme ça que j'ai lu le célibat du XVIIe siècle. C'est vraiment une période où on choisit, comme vous le dites, de concentrer le patrimoine sur une ou deux personnes. Et moi j'ai aussi appelé les cadets des hommes en réserve parce que, comme je le disais tout à l'heure, parfois on peut sortir de l'église ou on peut sortir de la vie militaire pour se marier si l'aîné n'a pas assuré une descendance viable. Donc les hommes restent en réserve, c'est pour ça que parfois on a des mariages tardifs. Mais là encore, ça renforce cette idée que... il faut perpétuer la lignée et il faut que le nom soit auréolé de beaucoup de prestige et donc qu'on fasse peu de mariages, mais des mariages très fastueux.
Et oui, c'est ça aussi, c'est ne pas faire n'importe quel mariage. Dans le cas d'Alexandre Brogniart, il y avait ça aussi, j'ai l'impression, il ne veut pas se marier, mais aussi parce qu'il souhaite un mariage particulier.
Oui, c'est sûr, il souhaite un mariage qui lui permet quand même de continuer sa vie de savant et donc d'avoir une famille qui lui permet de pas forcément devoir ouvrir une boutique, une pharmacie, comme il se pose beaucoup la question, mais aussi une femme qui est plutôt éduquée pour être mariée à un savant. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans ces milieux de la fin du XVIIIe siècle de savants. On éduque de plus en plus les jeunes filles, mais notamment aussi pour qu'elles puissent être en complémentarité avec le mari, parfois pour travailler, collaborer avec le mari. C'est ce qu'a montré Megan Roberts dans un livre sur le savant sentimental et qui a une sorte de volonté de mettre en scène déjà sa vie familiale, mais aussi de collaborer avec certains membres de la famille, notamment la femme. Et il est marié à la fille d'un ami à lui qui est aussi un savant, Coqbert de Montbré, qui est aussi un personnage de l'administration française, mais qui a une connaissance du monde savant. Et on lui propose du coup la main de Cécile Coqbert. Elle a 16 ans elle se marie à lui, quand il en a 30. Il était son précepteur, donc il lui a appris aussi, il l'a éduqué lui-même à devenir sa femme. Et elle va travailler, collaborer avec lui à son entomologie jusqu'au moment où elle tombe enceinte assez rapidement. Et elle s'arrête de travailler pour... entretenir le travail reproductif de la famille Brogniart, et elle reprendra un travail de salon ensuite au début du 19e siècle.
Est-ce qu'il y a une histoire genrée d'ailleurs de ce célibat dans vos études, Juliette et Méhoud? On arrive à percevoir si ce sont plutôt des femmes célibataires ou des hommes célibataires?
Alors moi j'ai tenu à faire une histoire genrée, y compris de la définition du célibat, de ce que moi je considérais comme étant des hommes et des femmes célibataires. Parce que jusque-là, les historiens démographes s'étaient intéressés à la question du célibat. Forcément, en fait, quand on mène une étude démographique d'une population, on s'intéresse à la nuptialité et donc en négatif au célibat. Et le choix méthodologique qui avait été fait par les historiens démographes, c'était ce palier de 50 ans. Donc à partir de 50 ans, on considère qu'une personne qui n'a pas été mariée est célibataire. Mais le problème de ce palier, qui est quand même tardif, c'est de gommer toute une réalité sociale. Et donc moi, je me suis posé la question, à partir de quand on peut se sentir célibataire au XVIIe siècle? Mon choix a été donc de corréler cette définition du célibat avec l'âge moyen au premier mariage, dont parlait Mathias tout à l'heure. Et effectivement, là, on voit une différence qui est encore plus marquée dans la noblesse entre l'âge au premier mariage des femmes et l'âge au premier mariage des hommes. Pour les femmes, on est plutôt autour de 21-22 ans pour le XVIIe siècle. Et pour les hommes, là, on retrouve les chiffres énoncés par Mathias, 27-28 ans. Donc déjà, de fait, il y a une différence. Quand on est une femme, disons, de 25 ans, donc, on s'appelle fille majeure dans les actes. Et autour de soi, on a des sœurs, des cousines, des amies qui, elles, sont mariées depuis parfois 4-5 ans et qui, donc, ont eu des enfants parce qu'à l'époque, il n'y a pas de contraception. Enfin, en tout cas, pas aussi efficace. Et donc, est-ce qu'on ne se sent pas déjà célibataire, fille majeure, célibataire, etc., quand on a 25 ans, quand on a 30 ans, encore plus, voilà. Et à l'inverse, les hommes qui sont potentiellement toujours en réserve, comme je disais tout à l'heure, ont peut-être plus de mal à se considérer comme des célibataires définitifs. Donc ça a été ça, une de mes interrogations dans le livre.
D'ailleurs, on va réfléchir dans le cours de l'histoire à la manière dont sont perçues ces personnes célibataires. Est-ce que c'est bien d'être célibataire ou est-ce que c'est complètement honni, ridicule, enfin, entre l'image de la vieille fille, du vieux garçon et puis l'image de la femme autonome, indépendante et de l'homme libéré de toutes les contraintes. Voilà, plein d'autres questions, mais on se fait une petite pause. Alors, on n'est jamais seul parce que là, nous, on est tous les trois. Il y a les auditeurs, les auditrices et en plus avec nous, il y a Serge Reggiani.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris, j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, 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 je ne serai jamais seul avec ma solitude.
La solitude par Serge Reggiani. Dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau, qui n'est jamais seul, puisqu'aujourd'hui, à la technique, il est avec Jean-Guilain Meige. Cette histoire du célibat aujourd'hui qui nous intéresse, c'est celle d'un célibat choisi. On peut juste évoquer l'aspect sexuel de notre histoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans cette idée de célibat, l'idée de continence. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du sexe dans le célibat. Dans ce que vous étudiez, là, Mathias Valverde, les savants, c'est pas de l'abstinence en attendant le mariage. Hein.
Non, non, pas du tout. Effectivement, il n'y a pas d'abstinence dans le célibat des savants. Il peut être parfois revendiqué, mais en règle générale, ce n'est pas le cas. Et au XVIIIe siècle, c'est ce qui pose beaucoup de questions. On est dans un moment où on critique le célibat notamment parce qu'il y a une peur de la dépopulation en France et que cette baisse de la population doit être contrée par la procréation. Et donc la sexualité dans le cadre légal du mariage, qui est la seule sexualité acceptée encore au XVIIIe siècle. Mais en réalité, de plus en plus de personnes ont des relations sexuelles en dehors du mariage, lorsqu'ils sont célibataires ou même dans le mariage, et ne cherchent pas la procréation. Et donc il y a ces questions qui se posent, du célibataire comme étant un danger parce qu'il ne se reproduit pas, donc il ne participe pas à la marche en avant de la patrie, si on veut, en tout cas son rôle de citoyen est amputé de cette procréation, et aussi parce qu'il est dangereux pour les autres hommes, parce que les débats tournent autour du fait que le célibataire peut en fait avoir des relations sexuelles avec les femmes des autres, et donc ça pose beaucoup de questions, notamment autour du célibat des prêtres, c'est sur quoi vont attaquer les philosophes des Lumières, le célibat des prêtres, notamment en posant la question de la débauche du célibat, en parlant de cette sexualité de ces célibataires masculins, puisque là, effectivement, il y a la possibilité, encore une fois, pour ces hommes de le faire sans trop craindre pour leur réputation ou leur scandale, et ce n'est pas le cas pour les femmes qui doivent le faire, qui le font aussi d'une certaine manière, mais qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage ou en tant que célibataire, mais qui risquent beaucoup plus pour leur réputation dans cette société.
Oui, dans la nôtre aussi, hein. On connaît bien cette persistance de regards différenciés. Est-ce que, Juliette Hémioud, ça apparaît ça dans votre recherche sur ces célibataires du XVIIe siècle? On est dans une société tout autre. Hein.
Oui, c'est aussi une question que je me suis posée. Et là, bien sûr, la question du genre entre en ligne de compte, forcément. Hein. Je n'ai trouvé aucune preuve d'une sexualité hors mariage chez les femmes que j'ai étudié. En revanche, chez les hommes, là, on a plusieurs preuves, et notamment la naissance d'enfants illégitimes, qui là, vient sacraliser cette sexualité. Et voilà, donc ça m'intéressait aussi cette question de la bâtardise, des pères célibataires, même si c'est un terme très anachronique pour l'époque, mais oui, qui parfois reconduisent des logiques nobiliaires. C'est peut-être là, en fait, dans ces cas-là, qu'on peut sentir une frustration du célibat. Le plus souvent, c'est donc des hommes cadets qui ont des enfants hors mariage et qui tentent de leur donner leur nom, qui tentent de leur donner un rang avec des pensions conséquentes, des places à l'armée. Voilà. Donc là, on a peut-être, entre les lignes, une frustration du célibat, une volonté de se donner une lignée malgré tout.
Les frustrations du célibat, c'est ça que l'on va retrouver sur un temps plus long. Et rappelons, le célibat, c'est pas être seul non plus, parce que dans les personnages que vous étudiez, il y a énormément de monde autour, qu'il s'agisse des domestiques dans le château. Ils sont combien autour de Louise de Béthune?
Alors, dans son testament, elle gratifie une quinzaine de domestiques pour son hôtel parisien, mais sachant qu'elle a aussi un château en province qui, là, aura une domesticité encore plus conséquente. Donc,
ça va, la solitude, c'est pas du tout ça dans le célibat ici, c'est un célibat bien entouré.
Oui, c'est pareil pour les savants, puisque au XVIe, XVIIe siècle, une des pratiques mises en avant, c'est cette sociabilité savante et ces relations qu'on entretient avec toute une communauté qui s'appelle la République des Lettres, puis la République des Sciences même, dans lesquelles il faut absolument entretenir des amitiés, des relations pour s'échanger des informations, avoir des protections, s'échanger des objets pour pouvoir travailler, des collections, etc. Donc il y a une forte relation homosociale, et c'est cela dessus que pour beaucoup, même d'historiens et d'historiennes ensuite, l'idée du célibat s'est arrêtée, c'est-à-dire qu'on pensait que les savants étaient des personnes très seules, et effectivement au XVIIe siècle il faut une certaine solitude pour faire un travail savant, mais en réalité le savant mène une vie très sociable depuis le XVIe, XVIIe siècle, et alors au XVIIIe siècle également, que ce soit au XVIIIe siècle dans les mondanités des salons, mais aussi dans les questions de cours publics à Paris, dans tout un public qui s'intéresse de plus en plus aux sciences. Donc le savant vit dans le monde avec beaucoup d'amitiés, de relations autour de lui. Il y a des amitiés très fortes aussi qui se nouent entre savants. Pour des savants célibataires, notamment à Cambridge, qui était là, il était interdit pour les professeurs de se marier. Il y avait des hommes qui restaient célibataires toute leur vie et avaient des relations parfois proches d'un amour entre hommes, d'un mariage même entre hommes, et étaient parfois enterrés ensemble. C'est le livre de Alan Breck qui s'appelle The Friend, dans lequel l'amitié est mise en avant comme un amour entre hommes aussi. Il faut poser cette question qui existe à ce moment-là. Donc oui, on n'est pas seul par rapport aux amis, et on n'est pas seul par rapport à la famille. Tout à l'heure, Juliette l'avait dit, c'est une époque très familialiste, et vous avez un autre savant qui s'appelle Pierre-Joseph Amoreux dans le sud de la France, à Montpellier, qui, son père s'est opposé à ses choix de mariage. Enfin, il l'a puni parce qu'il a décidé de ne pas s'établir comme médecin malgré ses études de médecine. Il voulait continuer à faire de la recherche en bibliothèque, mais aussi en botanique. Il l'est puni de ce mariage. Donc, il reste célibataire toute sa vie. Mais il est entouré d'abord de son père et sa mère. Puis son père meurt, il reste avec sa mère. Et ensuite, sa mère meurt et il rappelle sa sœur du couvent pour qu'elle s'occupe de lui. Parce qu'en fait, on n'est pas seul aussi quand on est savant, parce qu'il faut s'occuper du cadre domestique. La science du XVIIIe siècle est encore une science très domestique. On travaille beaucoup à la maison, parfois dans un cabinet de travail, très souvent dans un laboratoire de chimie ou de physique. Mais dans ce laboratoire vivent des gens qui viennent l'aider, des techniciens qui travaillent parfois aussi avec eux, des domestiques, et aussi la famille qui travaille dans cette maisonnée à la gloire et la réputation du savant.
Avec la question de ces amitiés très fortes et de l'homosexualité, bien sûr, est-ce que le célibat et l'homosexualité est quelque chose de pertinent, sachant que être homosexuel et marié, c'est quelque chose d'extrêmement courant aussi. Donc, est-ce que c'est une réflexion que vous avez pu croiser au cours de vos recherches ?
Moi, je pars du principe que ça existait, c'est certain, mais j'en ai trouvé aucune trace. en tout cas, dans les individus que j'ai étudiés. Mais je pense que c'est une histoire difficile à faire, mais qui existe.
Sans source, c'est très, très difficile. Mmh. Après, ce sont des hypothèses. Vous, c'est vrai qu'en étudiant les savants, vous nous le dites, il y a quand même une mise en scène dans une autre période qui permet d'avancer d'autres hypothèses.
Oui, il y a d'autres hypothèses qui peuvent être avancées. Il y a des questions qui se posent, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de sources pour les étudier. En tout cas, pour l'instant, les historiens et les historiennes recherchent encore une manière de pouvoir interroger ces sources. Alors, il y a des sources sur le contrôle de l'homosexualité dans Paris, par exemple, qui sont travaillées par les sources judiciaires. Pour les savants, il y a effectivement une question. Est-ce qu'il y a vraiment des amours entre hommes quand on les lit dans les lettres, ou on manque vraiment, le corps de la personne manque à l'autre? Donc, la question se pose de savoir jusqu'à où on parle d'amitié, où commencent les relations amoureuses. Il y a des questions aussi d'hommes qui restent célibataires et qui vivent beaucoup entourés d'hommes. La question est posée, par exemple, par les biographes de Humboldt, le savant allemand, qui, à Paris ou dans d'autres endroits, se dit totalement seul, mais qui aurait vécu des histoires comme ça, de relations, en tout cas, on ne sait rien, on ne sait pas, en tout cas pour lui, les pratiques sexuelles de ces savants, mais on connaît des relations d'amour, de vie commune, parfois. Il y a beaucoup de gens qui vivent entre hommes dans certaines maisonnées pendant quelques temps, au moins, et donc on peut se poser la question. Malheureusement, il n'y a pas de sources très précises qui permettent d'y réfléchir pour le moment, mais je pense que les questions arrivent dans l'historiographie, notamment française, et pourraient se développer un peu plus pour poser la question de ces relations qui existent entre personnes de même sexe.
Et puis c'est ça, quelqu'un qui n'est pas marié, bien sûr, on le sait. D'ailleurs, ça crée des commérages parfois, des cancans. Et ici, on touche à la représentation de ces personnes célibataires. Ces représentations, là aussi, elles s'écrivent sur le temps long et selon le point de vue que l'on prend, là où on se place dans la société. On va faire un petit tour dans l'Angleterre du début du 19e siècle.
Rangez vos portraits miniatures avant l'arrivée de notre invité. Et Pénélope, posez immédiatement ce livre. Ça risque de vous embrouiller la tête.
Et donc ? Je serais ravie de laisser ma place cette année.
Pénélope est très nerveuse. Ce sera sa toute première saison.
Je ne suis pas nerveuse, maman.
Pas du tout. Elle est seulement affligée de 15 kilos de trop.
Les défauts de son visage sont difficiles à camoufler. Oh, à moins peut-être d'utiliser un peu d'arsenic et de plomb.
Me permettriez-vous de reporter d'un an, ainsi que Lady Bridgerton l'a fait pour Héloïse? Je pourrais ainsi continuer à me consacrer à mes études.
La réponse est non, Pénélope. Vous feriez peut-être bien de l'écouter, madame. Chaperonner 4 jeunes filles à la fois dans ces interminables péripéties.
Vous imaginez la compétition?
Quel type de compétition cette cousine est-elle à même d'engendrer? Elle a grandi dans une ferme et sa dot ne comporte que 4 chiffres. Quant à son apparence, eh bien, j'ose croire que Miss Thompson est plus présentable que les bêtes divaguant dans la campagne qu'elle a passé sa vie à tenter de faire rentrer au bercail.
La cousine de Lord Fotherington est arrivée, madame.
Oh, bon, N'oubliez pas d'être gentille, mademoiselle. Et charitable. Les pauvres sont notre fardeau.
Ben voilà, au moins comme ça c'est clair. La chronique des Bridgerton, hein, c'est la série télévisée. Mathias Alverde, ici on entend, hein, il y a la présentation, c'est une pression sociale incroyable, hein, pour présenter les jeunes filles en vue d'un mariage. Il y a la question de la dot, il y a la question de l'apparence aussi. Cette histoire du célibat, c'est une histoire de regard également porté sur ces personnes qui ne sont pas mariées.
Oui, tout à fait. Hein. Je pense que c'était très intéressant, notamment la question que Juliette et Claire-Lise Gaillard ont posée lors d'un colloque il y a quelques années maintenant sur le célibat, de le reconsidérer comme une question historiographique intéressante pour pouvoir accéder à d'autres réflexions sur ces personnes qui vivent hors du mariage et qui, en réalité, tu disais, Juliette, une femme sur deux, ou certains démographes de l'époque, Moho, qui invente un peu cette idée de la démographie tout à la fin du XVIIIe siècle, dit qu'il y aurait la moitié de la société, en comptant les enfants, qui seraient célibataires. Donc en fait, ça touche énormément de personnes, et en les prenant en compte, on peut réfléchir à nouveau à ces questions de séduction, d'amour, d'apparence, de manière de se présenter, de se mettre en scène dans la société, ces questions aussi de juridique, matrimoniale, d'échange de patrimoine, de circulation du capital dans ces familles. C'est intéressant de se poser cette question à partir du célibat, hein, qui l'historiographie a pendant longtemps intéressé à la famille et moins à la vie et l'expérience des célibataires.
Histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle, c'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Juliette Méhoud, avec Claire-Lise Gaillard. Et puis il y a le siècle du célibat, des célibataires nobles en France au XVIIe siècle, aux prés universitaires de Rennes. Est-ce que l'on pourrait dire que vous assistez, dans votre étude au XVIIe siècle, à l'apparition de ce personnage particulier, le célibataire ou la célibataire, avec un regard porté sur cette personne qui est un regard complexe et pas toujours bienveillant?
Moi, je le situerais plutôt au XVIIIe siècle, ce regard malveillant, clairement jugeant sur le célibataire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est le célibataire au masculin. Enfin, vraiment, c'est ce que disait Mathias tout à l'heure, mais c'est les hommes célibataires qui refusent de payer leur tribut à la nation en se mariant et en ayant des enfants. La célibataire n'apparaît pas. Alors, il y a ce personnage de la vieille fille dont vous parliez tout à l'heure. D'ailleurs, elle a son pendant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec l'apparition du mot spinster entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et puis, on peut penser aussi aux comédies de Molière, où il y a toujours une vieille fille qui est le personnage très négatif, jalouse, cupide, enfin, voilà, qui a toutes les tares. Mais ce que j'ai pu observer pour le XVIIIe siècle, c'est que c'est vraiment les hommes célibataires qui concentrent la vindicte populaire. Il y a de plus en plus de pièces de théâtre qui sont montées, surtout dans la deuxième moitié du siècle, qui ont pour titre « Le célibataire détrompé »,« Le vieux célibataire »,« Le célibataire ». Et c'est toujours des personnages extrêmement négatifs qui ne savent pas réfléchir, qui sont pris dans leur philosophie avec un P majuscule et qui, en fait, sont complètement à côté de la plaque, quoi. Donc voilà, moi ça m'a intéressé que ça soit les hommes qui en prennent plein la figure au XVIIIe siècle.
Ça change. Avec ici les représentations culturelles, des stéréotypes qui se mettent en place. C'est un personnage.
Il y a aussi un discours médical qui se met en place de plus en plus sur le célibat et qui critique en fait le plaisir et la sexualité est encouragé au XVIIIe siècle dans le cadre de la vie conjugale puisqu'il faut procréer. Donc il y a toujours une question de balance en fait entre la sexualité et les excès qui sont... Mais le fait de ne pas avoir de relations sexuelles est aussi critiqué de plus en plus. Et vous avez Tissot qui travaille sur les maladies des gens de lettres et qui dit que il soutient que les intellectuels, un peu comme les masturbateurs, il dit, passent trop de temps seuls et gaspillent leur force vitale, et qu'en fait il faut finalement évacuer aussi ces fluides, notamment en parlant du corps et de la nature. Donc il y a une question de médicalisation presque de la position de célibataire, ce qui est porté aussi comme critique par rapport au célibat des prêtres, et ce qui en retour par certains tenants de l'Église et du célibat des prêtres va être retourné contre les philosophes en disant mais attendez, le problème c'est peut-être aussi les philosophes qui ne veulent pas se marier. Donc il y a ce ping-pong entre Église et philosophes qui se renvoie la balle, mais la question est aussi médicalisée à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, et pour le coup, la question médicale, elle vaut aussi pour les femmes célibataires. On s'inquiète beaucoup des femmes célibataires, surtout qui n'ont pas eu d'enfants, parce qu'il y a tout un discours sur les pâles couleurs, les green sickness. C'est quand l'utérus n'est pas utilisé, il pourrit, en fait. Il y a un peu cette idée-là, et que forcément, on devient malade d'être célibataire. Et donc ça, on a le même discours pour les femmes.
Donc on va trouver ici cette idée qui est encore celle présente aujourd'hui parfois sur le, enfin moins aujourd'hui, mais qui a au moins a traversé le XXe siècle, sur le célibataire qui ne correspond pas à la norme et puis qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, parce que on l'a bien dit, ce sont des cas particuliers, donc il y a autant de cas et autant d'hypothèses, et on sait bien comment sont les gens, ils adorent cancaner, et dès qu'il y a des hypothèses à faire, ils ne choisissent pas souvent les meilleures. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on doit comprendre avec cette étude sur qu'est-ce que le célibat.
Oui, et puis on a aussi pitié. Il y a aussi tout un discours de la pitié pour ces gens qui ne connaîtront pas la félicité conjugale, qui n'auront pas d'enfants. Enfin, ça apparaît à la fin du XVIIIe aussi, et puis c'est exacerbé au XIXe siècle.
Avec, pour les savants, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette idée du sacrifice aussi. On évoquait les stéréotypes attachés aux personnes célibataires, mais il y a de ça, c'est je sacrifie ma jeunesse pour la science.
Tout à fait, et parfois même la vie, et en réalité cette question de l'utilité publique justifie toujours le célibat des savants, en tout cas est toujours potentiellement justifiable, notamment dans les éloges. Il n'y a pas d'exclusion lorsqu'une vie se termine et d'un savant qui est resté célibataire, on l'encense toujours, on lui fait des éloges parce qu'il a mené une vie pour le bien public, il s'est sacrifié. On parle parfois de ce sacrifice-là pour l'utilité, pour le génie. Et donc on comprend, ou en tout cas on cherche à toujours mettre en place des possibilités pour les célibataires dans le monde des savoirs, pour leur donner une reconnaissance.
On va terminer avec les deux héros du jour. Donc vous, Mathias Valverde, Alexandre Brognard, il finit par se marier.
Il finit par se marier, oui, à 30 ans. Un mariage très intéressant. Il aura une vie de patriarche, en fait, tout au long du 19e siècle, avec une descendance dans les sciences, etc. Donc il y a, pour lui, finalement, il accède au rôle qu'il s'imaginait peut-être pas, mais qui est un peu le rôle de l'homme, le rôle hégémonique pour les hommes, c'est-à-dire ce rôle de patriarche d'une famille au 19e siècle.
Voilà, et donc il n'aura pas été célibataire si longtemps que ça, mais il aura écrit, donc au moins ça permet
de
faire des études, et notamment votre thèse. C'est une thèse en préparation des savants d'un même genre, contribution à l'étude critique des masculinités, le cas des académies savantes, c'est sous la direction de...
De Isabelle Laboulé et de Sylvie Steinberg.
Et puis Juliette Emehoud, on va terminer avec votre héroïne, Louise de Béthune, vous nous l'avez dit, elle lègue, c'est bien... En famille, à ses neveux et nièces, à ses nièces.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle lègue ses biens à ses petites nièces et à son petit-neveu cadet. Donc elle va vraiment à l'encontre des logiques patriarcales que j'énonçais plus haut. Elle ne favorise pas l'aîné.
Ouais, donc jusqu'au bout. Hein.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Merci vivement à tous les deux d'être venus dans le cours de l'histoire. On retrouve toutes les références sur le site, le cours de l'histoire franceculture.fr, de vos publications. Merci beaucoup à tous les deux. On Merci. Termine, vu que voilà, c'était un duo de paroles d'historiens et d'historiennes, par un autre duo.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, reviens là-bas.
Ce ne sera pas pour nous, puisque nous ces trucs-là on s'en fout. C'est si bon d'être célibataire. C'est si bon de garder sa gaieté, de toujours diriger sa galère, en durant avec le vent la liberté.
Le duo des célibataires, c'est Bourvil et Georges Guettari dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, cette émission et toutes les précédentes, et à podcaster sur notre site franceculture.fr et évidemment sur l'appli Radio France.